It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Belle Équipe, émission de débat d'actualité, émission conviviale aussi. On accueille aujourd'hui Georges Fenech, bonjour.
Bonjour.
Dans CNews, à vos côtés Jean-Michel Fauvergue, bonjour.
Bonjour.
Ancien chef du RAID, Élodie Huchard, pas Ludovine, Élodie Huchard, je suis habituée. Élodie Huchard, service politique de CNews, est avec nous.
Bonjour.
Élodie et Ludovic Taureau également. Bonjour. Maire UDI de Coubron, également médecin. On entame nos débats dans quelques secondes, mais il est 14h pile, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
La situation des pouvoirs publics face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, dénonce la défenseure des droits. Claire Hédon s'apprête à publier lundi un rapport de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid, alors que les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Le bilan de la frappe russe sur un immeuble à Dnipro hier monte à 20 morts et 73 blessés. D'après la présidence ukrainienne, entre 100 et 200 personnes sont sans abri et quelques 1700 habitants étaient privés d'électricité et de chauffage. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Les Californiens se préparent à essuyer ce dimanche de nouvelles fortes pluies. Au moins 67 morts sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé au centre du Népal ce matin. 15 ressortissants étrangers, dont un Français, étaient à bord de l'appareil de la compagnie Yeti Airlines. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays malayen.
Et à la une de l'actualité, ce dimanche, la réforme des retraites qui continue d'agiter la classe politique et les représentants syndicaux. On parlera des syndicats dans quelques minutes. On va d'abord s'arrêter sur cette mobilisation générale du gouvernement qui occupe les studios de radio et les plateaux de télévision pour convaincre encore et encore du bien fondé de la réforme. Élodie Huchard, ils étaient plusieurs sur le pont ce matin. Pour combler cette tâche.
Oui, ils ont été aussi sur le terrain toute la semaine. Alors, on va regarder ce que disaient Gabriel Attal et Olivier Dussopt, chacun invité d'une émission dominicale. Alors, les deux, il y a beaucoup d'éléments en commun. Ils expliquent que la réforme, elle est nécessaire. Ils expliquent qu'il faut faire de la pédagogie parce qu'ils estiment que si les Français sont contre cette réforme, c'est en fait parce qu'ils ne la comprennent pas et qu'ils ne se rendent pas compte que certains seront gagnants. Tous les deux insistent sur le fait que c'était une réforme souhaitée par Emmanuel Macron, qu'elle était dans son programme et que donc il n'y a pas de découverte. Tous aussi expliquent qu'une réforme des retraites, ça se fait forcément dans la douleur. Alors du côté de Gabriel Attal, ce qui a été mis en avant aussi, c'est le fait que les consultations, les concertations avec les partis politiques et avec les syndicats ont porté leurs fruits. Écoutez ce que disait le ministre du Budget.
Il y a une représentation nationale qui va discuter de ce texte. Moi, je rappelle par ailleurs que c'est une réforme qui est annoncée depuis un certain temps, qui a été annoncée dans le cadre de la campagne présidentielle par le président de la République, que la réforme qui a été présentée par Elisabeth Borne mardi est déjà un compromis. Puisque dans la campagne présidentielle, ce qui était annoncé, c'est 65 ans pour l'âge de départ à la retraite et c'est la retraite minimum à 1 200 € uniquement pour les nouveaux retraités. Et ce qu'on a annoncé, c'est que c'est plus 65 ans, c'est 64. On ne découvre pas aujourd'hui ce sujet. Il n'y a pas eu de réforme cachée qui serait sortie du chapeau après l'élection présidentielle. Personne n'est pris en traître. Cette réforme, elle a été annoncée dans le cadre de la campagne.
Et puis il répond aussi aux critiques. Alors il explique que les syndicats de toute façon sont toujours pour par principe quand on doit travailler plus longtemps. Et puis à l'Assemblée nationale, il renvoie dos à dos la gauche qui serait le camp du blocage. Dit-il qu'ils veulent toujours tout bloquer et transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Et puis le Rassemblement national, selon lui, qui serait le camp du mensonge en disant aux Français qu'on va partir à la retraite à 60 ans, ce qui coûte 85 milliards de plus. Alors tous les deux ont été aussi interrogés sur le changement de pied du président de la République. Gabriel Attal le justifie en expliquant expliquant qu'à l'époque, le Conseil d'orientation des retraites donnait un déficit moins important. Olivier Dussopt l'explique, lui, parce que le taux de chômage s'est amélioré et que donc il faut aller de l'avant. Et justement, Olivier Dussopt, qui utilise beaucoup de chiffres pour expliquer tous les Français qui vont être gagnants, les quasiment 2 millions de Français qui vont avoir une revalorisation, les 40% des Français qui partiront avant 64 ans. Et puis surtout, lui, il insiste, il le dit, sur le fait que la réforme soit une réforme juste.
Si nous n'avions qu'une priorité qui serait le retour à l'équilibre d'un point de vue strictement comptable et financier, nous serions dans une forme d'erreur. Ça n'est pas le cas. Nous avons une priorité, nous le disons, nous le répétons, c'est l'équilibre parce que c'est la nécessité pour que ce système soit préservé. Et il faut aussi intégrer dans cette dimension-là la nécessité de ne pas parler que d'argent mais parler aussi de justice. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on se contentait d'améliorer le système de retraite, et c'est primordial. On y reviendra, mais ce que j'ai dit, la pénibilité, les seniors, les carrières longues, le niveau des pensions, il faut améliorer. Si nous ne faisons qu'améliorer, ça veut dire que des coûts supplémentaires, ça n'est pas responsable. Par contre, si nous ne faisons qu'équilibrer, que parler argent, que parler équilibre, ça n'est pas juste. Et donc la réforme que nous portons, elle est à la fois elle est articulée autour de deux objectifs, faire mieux, avoir un meilleur système de retraite, mais le faire de manière responsable avec un système équilibré.
Et puis il revient aussi sur les mobilisations prévues jeudi. Alors évidemment, Olivier Dussopt explique qu'il ne veut pas faire de prévisions. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne fais pas la météo du dialogue social. Mais Gabriel Attal, comme Olivier Dussopt, renvoie le débat au Parlement. Olivier Dussopt qui explique qu'il serait ravi de trouver évidemment les voix de la droite et qu'il craint que la France insoumise fasse de l'obstruction parlementaire, puisque Mathilde Panot disait déjà qu'elle voulait au moins 150 000 amendements sur ce texte.
Oui, on verra que les syndicats sont mobilisés. Évidemment, Ludovic Toro, je vous ai vu... de la tête plusieurs fois hein, en entendant le gouvernement. On sent surtout que le gouvernement veut réussir là où d'autres avant lui ont échoué.
Comment ils peuvent dire encore que les Français ne comprennent pas la retraite? Ils ont bien compris, les Français, qu'il fallait travailler plus longtemps pour avoir plus d'argent. Mais le problème est là. Le problème, en fait, de tous ces politiques qui sont près du président de la République, c'est qu'ils n'ont aucune humanité, aucune empathie. Je pensais, vous savez, la phrase « vivement la retraite ». Moi, à mon cabinet médical, je vois les gens qui viennent. Ben, ils disent tous « vivement la retraite », parce que c'est de plus en plus difficile pour eux. En fait, c'est humain, le côté humain. Ils veulent avoir une nouvelle vie. Et là, on dit, vous allez avoir 2 ans de plus. Maintenant, ils n'ont pas calculé à quelque chose. Qui va chercher les enfants à la sortie des écoles? C'est les grands-parents. Qui s'occupe des 11 millions d'associations culturelles et sportives? Les retraités. Donc, on va perdre dans les associations. Qui va les chercher? On ne sait pas. Comment vont faire les gens qui travaillent? Je ne sais pas. Il y a le côté complètement humain et complètement sorti de cette réforme, comme tout le temps. C'est ce que fait M. Macron depuis le début. Il n'y a pas d'humain. Il ne calcule pas à la personne. Il calcule sur des chiffres et encore sur le côté budgétaire. C'est clair que c'est qu'encore du budget. Donc voilà, cette réforme passera sûrement. Mais quand je vois 70% contre, 70% qui sont résignés et 70% qui ne veulent pas le blocage, l'histoire est réglée. Voilà, on en est aujourd'hui. On est tous contre cette retraite qui vient trop brutalement. On aurait pu attendre et discuter, mais bon, c'est la fin du règne Macron. Voilà, et encore, moi, je dis quelque chose sur la pénibilité, parce qu'il s'assoit sur la pénibilité.
Oui, j'allais y venir. Le côté humain qu'ils ont peut-être le plus développé.
Non, parce que je vais vous répondre que c'est que de l'esbrouf. Il n'y a pas de médecin du travail. On a un médecin du travail, d'accord, pour 3740 salariés. Comment vous voulez qu'ils signent et qu'ils reçoivent ces salariés? Qui va évaluer ça? C'est... Qu'il aille voir Braun, le ministre de la Santé, il lui demande est-ce que vraiment on pourrait mettre ça et la pénibilité au cas par cas on pourrait le faire. C'est impossible, on l'a jamais fait et c'est encore pire maintenant parce qu'il n'y a plus de médecins. C'est clair, voilà, l'humain n'existe pas. On promet mais on ne pourra pas tenir comme toujours.
Réaction, monsieur. Georges Fenech, vous êtes d'accord avec ce diagnostic sévère de Ludovic Toro?
Je ne crois pas que ce soit un argument recevable ce que dit Bruno Attal sur le fait que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, présidentiel, donc on l'a voulu, puisqu'on a élu. Non, je crois que quand on a voté pour Emmanuel Macron, il y avait différentes raisons. Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qui est dans le programme. Et puis il y a eu le barrage contre Marine Le Pen, qui explique aussi, je pense que beaucoup de les filles ont voté, par exemple, Emmanuel. Donc c'est pas un argument. C'est quand même la huitième réforme des retraites depuis 1993. À chaque fois, il y a eu des obstacles. À chaque fois, il y a eu des manifestations. Quelquefois, le projet a été retiré. D'autres fois, il est passé quand même en force, si je puis dire. Là, la configuration aujourd'hui, ce qui peut inquiéter le gouvernement, à mon avis, c'est que la configuration, elle est très particulière. Nous sommes en pleine crise. Il y a de l'inflation, il y a de l'inquiétude, il y a une guerre aux portes de l'Europe, etc.
Alors partons de là, c'est jamais le bon moment pour faire passer une réforme des retraites.
Bah, écoutez, il y avait déjà eu un projet d'Emmanuel Macron qui a été retiré à cause de la crise sanitaire. Mmh. Là, on est dans une crise sociale, économique et sécuritaire majeure. Ça, c'est le. Et puis, il y a un autre aussi argument, c'est que le gouvernement actuellement n'a pas de majorité absolue. Et donc, qu'est-ce qu'il va finalement, au bout du compte, en sortir de cette discussion parlementaire? Personne ne peut le dire véritablement. Même chez les LR, il y a certains qui disent qu'ils ne vont pas voter.
Même si
minorité.
La semaine a plutôt montré que les LR allaient plutôt dans le sens du gouvernement, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques semaines. Là, oui. Il y a plus d'assurance.
Oui, mais attendez de voir un peu comment le débat va se dérouler. Mais moi, ce que je pense qu'il faut absolument éviter pour le gouvernement, c'est l'utilisation à nouveau de l'article 49.3. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y ait obstruction à un certain moment. Enfin, obstruction, ce n'est pas le terme, mais qu'on arrête les débats parlementaires. Et quand on arrête un débat parlementaire, généralement, ça excite encore plus la rue. Vous voyez, oui. Donc, on est dans une période de grande expectative, en tout cas en ce qui me concerne.
Jean-Michel Fauvergue, vous qui connaissez bien le chef de l'État et son entourage, on parlait d'un manque d'humanité, selon Ludovic Thoreau. Il est précis, ce diagnostic?
68% des Français sont contre l'allongement. Quand on demande aux gens, effectivement, vous allez travailler 2 ans de plus, qui peut être pour ça? Personne. Quand on commence à leur expliquer, on est obligé de faire cette réforme parce qu'on a un problème de financement, comme les réformes ont été faites avant, pour les mêmes problèmes, et on est obligé de la faire passer, et on est obligé de faire cette réforme parce que aussi on veut réintroduire un peu d'humanité, on veut réintroduire aussi dans ces réformes-là une retraite minimum. C'est vrai que le minimum des retraites aujourd'hui, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, peut être en deçà de 800 euros ou à peine tangenter les 800 euros.
Et on disait hier que certains sont prêts à cotiser plus pour éviter l'allongement
du travail.
Exactement.
Alors, monter d'office à 1200...
Dans le contexte qu'a décrit Georges Fenech, c'est difficile aussi de cotiser plus en ce moment.
Monter de suite à 1200 euros, garantir 1200 euros par mois, c'est déjà un progrès social qui est un projet énorme. Et ça, c'est de l'humain. Donc, moi, peu m'importe de savoir si les entourages des uns et des autres manquent d'humanité, etc. En fait, on s'en fout un peu. C'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est de faire des réformes quand on doit faire des réformes. Parce qu'en fait, l'homme politique...
Ça aide à faire passer le message auprès de Français déjà...
Les hommes politiques servent à quoi? Ils servent à avoir un grand dessein et à projeter la France dans l'avenir. Donc si, à chaque fois qu'il y a un vrai dessein et qu'on doit projeter la France dans l'avenir, que ce soit d'ailleurs pour les retraites, que ce soit aussi pour le plan du nucléaire qui a été énoncé, si à chaque fois on s'arrête... sur l'obstacle, parce que les Français, évidemment, sont contre sur le court terme, on n'arrivera à rien et ce pays-là va stagner. Et c'est bien ce qui est reproché aux générations d'avant, d'avoir stagné sur un certain nombre de sujets. Donc il faut avancer là-dessus.
Alors, il faut avancer, sauf que les syndicats, eux, pour l'instant, ne sont pas d'accord. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, appelle 1 million de Français à descendre dans la rue jeudi prochain. Ce sera la première journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, espère lui aussi des millions de Français mobilisés le 19 janvier. Écoutez.
Le débat à l'Assemblée nationale, et on l'avait vu en 2019-2020, il est en fonction de la mobilisation et des grèves. C'est ça qui donne le ton. C'est ça qui montre que le monde du travail, le large, hein, c'est-à-dire les jeunes, y compris les retraités, refuse cette réforme. C'est ça qui donne le ton. Et donc la bataille, entre guillemets, parce que ces propos belliqueux me gênent toujours, elle se joue d'abord dans les entreprises, dans les services,
dans la rue.
Mais
aussi à l'Assemblée nationale, ça se passe en même temps.
Mais je n'ai pas dit qu'elle ne se jouait pas à l'Assemblée nationale. Écoutez-moi bien, elle se joue d'abord dans la rue, et dans les grèves, dans les entreprises et les services. Et je souhaite qu'il y ait un relais, évidemment.
Alors, dans la rue, dans les entreprises, dans les grèves et à l'Assemblée nationale, on sait que les débats vont être houleux. C'est vrai qu'on parlait d'un janvier noir, mais enfin, février s'annonce de la même couleur.
Oui, mais finalement, quand on écoute là Philippe Martinez, c'est presque rassurant pour le gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, les syndicats, de l'autre, notamment par exemple la France Insoumise ou les partis qui appellent à la mobilisation. Et là, quand on entend son propos, on a l'impression qu'il dit c'est dans la rue le vrai combat et pas à l'Assemblée. Comme si c'était finalement deux luttes qui n'allaient pas converger. Et puis, effectivement, le gouvernement va voir comment ça se passe. Parce que si finalement les syndicats sont dépassés, comme ça a pu être le cas à la SNCF récemment ou chez les médecins. Si les syndicats et les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, c'est du pain béni pour le gouvernement. On sait qu'a priori, ils peuvent trouver une majorité avec les Républicains. Alors effectivement, certains Républicains ne voudraient pas voter ce texte. Attention quand même, on rappelle que chaque année, les sénateurs républicains votent un amendement qui est exactement cette réforme que Valérie Pécresse proposait, la retraite à 65 ans. Donc finalement, pire, si j'ose dire, que ce qui est proposé. Donc il va falloir, pour les LR, ceux qui ne voudront pas voter cette réforme, vraiment trouver des bons arguments pour expliquer pourquoi ils ne votent pas une réforme pour laquelle ils ont fait eux-mêmes campagne il y a quand même quelques mois.
Mmh. Alors ensuite, les syndicats se préparent à la grande manifestation de jeudi. L'une de nos équipes a pu suivre des militants de la CGT qui viennent de recevoir leur nouveau tract. Ils vont désormais les distribuer sur les marchés, notamment à Bordeaux. C'est un reportage d'Antoine Estève.
Les Français contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en manifestant, ils mettent en péril les autres.
Moi, personnellement, je le ferai pas. Après, je comprends les gens qui descendent dans la rue pour manifester.
Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc je ne sais pas après si ça va donner des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop.
Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service.
Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer.
Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée.
Alors vous aurez corrigé par vous-même s'il ne s'agissait pas d'un reportage sur le tractage de la CGT, mais c'est pas grave, c'est l'un des autres éléments qu'on voulait évoquer puisqu'on parle de ces chiffres, effectivement, 68% exactement des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites selon un sondage IFOP pour le JDD. La perspective d'un départ à 64 ans constitue, on voit, un repoussoir, même si le soutien à la mobilisation, lui, s'affaiblit avec le temps. On a parlé des différents gouvernements qui ont tenté cette réforme. Regardez, il y a un comparatif entre 1995 et 2023. Le pic d'une contestation ou de la mobilisation par rapport à ces réformes a été atteint en 2010, à 71% et 51% seulement au début du mois de janvier. Les syndicats donc comptent sur une forte mobilisation, sauf que voilà, ça veut dire pour certains Français peut-être des coupures de courant, d'électricité. Il y a le syndicat énergie, notamment Ludovic Thoreau, qui dit qu'il ne s'interdit rien, une coupure de temps en temps, plusieurs jours, peut-être alors, des pénuries d'essence. Est-ce que les Français sont prêts à ça dans le sujet qu'on vient de voir? C'est pas sûr.
Je me suis rendu compte qu'il y aura beaucoup de personnes qui reflètent ces 70%, puisque moi, dans ma mairie, il y a déjà, je sais que pour jeudi, il y aura 80% de personnel en grève. Et pas du tout sur l'appel des syndicats, puisque j'ai pas de syndicat dans ma ville, d'accord? Donc ils ont décidé de se mettre en grève jeudi, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup, en effet, ça reflète votre chiffre, voire même au-delà, qu'ils ne veulent pas. Mais le terme terrible, c'est résigné. On est dans un peuple résigné, c'est terrible.
Mais quel autre choix?
Mais vous avez raison, c'est tout le calcul du gouvernement. Il sait qu'on ne va pas pouvoir supporter de faire la queue, on ne va pas pouvoir tout ça. Donc il se dit, ça fera un jour, deux jours, mais au-delà, ça va basculer et personne n'ira. C'est ça la problématique.
On a vu des gens aller à la pompe à essence pour éviter de revivre ce qu'on a vécu il y a quelques semaines.
Exactement, on a tous les antécédents qui nous prouvent que voilà, à un moment, on en a assez, on veut prendre les transports, on veut mettre de l'essence, donc ça ne pourra pas tenir. Et c'est tout le terme de cette résignation et cette ambiguïté où on est autant à ne pas vouloir cette réforme et autant à dire qu'on est résigné et qu'elle va passer. C'est terrible dans une démocratie.
Et qu'on est d'accord pour en subir les conséquences. C'est ça le problème, parce qu'on parle de transport, on parle de la santé, on parle de l'éducation. Tous les secteurs vont être touchés par ces mouvements de grève.
Oui, mais vous voyez la différence de la dernière grève totale. Les dépôts de carburant sont très fortement pénalisés. Là, c'était la défense d'intérêts catégoriels. Tandis que là, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que tous ces gens qui vont faire grève, qui vont manifester, ils le font pour les deux tiers des Français qui, au fond, rejettent cette réforme. Non. Est-ce qu'il n'y aura pas un seuil d'acceptabilité de ces grèves plus important parce que ça touche tout le monde, si vous voulez, hein? Donc c'est ça que moi je me dis que, au fond, évidemment, personne ne peut souhaiter que le pays s'arrête. Mm-hmm. Qu'il y ait des manifestations, ça fait partie de la démocratie. C'est un moyen de s'exprimer. Mm-hmm. Qu'il y ait des grèves, c'est un droit constitutionnel. Par contre, là où on tombe dans difficilement acceptable, c'est le blocage. Mm-hmm. C'est-à-dire ceux qui bloquent, ceux qui voudraient quand même travailler. C'est ça, en fait. Mm-hmm. C'est toujours la
D'ailleurs,
question.
D'ailleurs, on a constaté ces derniers mois que ces mouvements étaient souvent de plus en plus radicaux, effectivement, qu'on allait généralement jusqu'à ce fameux blocage. Mais...
C'est ça, et les syndicats le savent très bien. En réalité, ils obtiennent des avancées ou des retraits de projets que lorsque le pays se bloque. L'expérience nous l'a montré, malheureusement. Moi, je me souviens très bien de 95. Hein, c'était
pour la SNCF
un
aussi,
enfer. Ça a été un enfer pendant un mois. C'était épouvantable. Et donc, il y a un moment où on ne peut plus rester dans une situation de blocage et il faut en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est des décisions qui appartiennent au chef de l'État, au gouvernement, en fonction de ce qui va se passer ce mois-ci et le mois prochain.
Et comment on explique, Jean-Michel Fauvert, cette attitude des Français qui sont contre la réforme et qui, en même temps, ne sont pas du tout prêts à ce qu'on bloque leur vie quotidienne et que les enfants continuent à aller à l'école et qu'on puisse se soigner
Bah Barbara, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous dites on va travailler 2 ans de plus, personne n'est pour, de manière générale. Quand on commence à l'expliquer, bon, les choses évoluent peut-être un peu, mais à l'origine, personne n'est pour travailler 2 ans de plus. Bien sûr, on est tous pour travailler beaucoup moins et avoir beaucoup plus d'argent. C'est assez naturel, en fait, au fin fond de nous-mêmes, on est tous comme ça. La différence, c'est que effectivement, quand vous les interrogez et vous leur demandez est-ce que vous soutenez la mobilisation, il y a la moitié des Français qui vous disent non, l'autre moitié qui dit oui, peut-être, éventuellement. Mais on voit dans votre reportage que c'est une mobilisation molle. Moi, je soutiens la mobilisation à condition
grève après grève, on en a
à condition que je sois pas embêté. Effectivement, les grèves s'accumulent sur les grèves, les crises s'accumulent sur les crises, et les Français, pas que les Français d'ailleurs. Je pense que tous les Européens, tous les gens qui subissent ces crises-là en ont assez, il y a une espèce de résignation. Mais il y a aussi 68%, ça a été dit dans le reportage, des Français qui disent que le texte sera voté et appliqué. En fait, est-ce que le gouvernement a les moyens de faire marche arrière et de ne plus appliquer ce texte-là? Moi, je dis d'emblée non, parce que à ce moment-là, ce pays-là ne sera plus réformable. Et s'il n'est pas réformable, les grands enjeux du futur ne pourront pas être mis sur la table et seront encore reportés. Et c'est impossible à faire.
Mais la France ne rattrapera jamais le train en marche.
Le projet du futur, c'est le quinquennat de M. Macron qui se joue là.
Oui, mais ça sera inscrit dans la mémoire collective et le successeur de Macron, parce que comme il ne se représentera pas, il aura un successeur, femme ou homme, le successeur de Macron sera aussi empêché parce que... Et puis, vous avez aussi en face de tout ça des syndicats qui s'opposent, mais qui ne proposent pas de contre-proposition en disant nous on s'oppose aux 64 ans ou 65 ans, mais les contre-propositions pour dire mais comment on fait?
Il y en a qui ont été mis sur la table quand même.
Oui, mais c'est pas au niveau syndical.
Il y en a, les syndicats, si. Les syndicats ont parlé de taxer les dividendes, ont parlé d'augmenter... Ouais. Mais si, ils ont fait quand même des propositions.
Ouais. Là, et le Dicher, sur justement ce que le gouvernement envisage ou sa marge de manœuvre par rapport à ce qui peut se passer à partir de cette semaine. Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur... Comment faire face à la mobilisation sociale ou des Français?
Ça va être en plusieurs étapes. Ça va être un vrai test. D'abord, jeudi, de voir au sein de la RATP, de la SNCF, dès mardi soir, quelles sont les prévisions de trafic, de savoir si les syndicats sont toujours entendus ou pas, parce que ça fait plusieurs mobilisations qu'on nous dit qu'il y aura le retour des gilets jaunes, le retour des syndicats, des grandes mobilisations, la fameuse rentrée sociale chargée qu'on n'a toujours pas vue. Alors effectivement, les retraites, c'est un texte inflammable et c'est un peu le texte parfait pour ça. Mais il faudra regarder précisément combien de personnes il y a dans les rues. Quand Philippe Martinez dit qu'il faut plusieurs millions de personnes, c'est quand même chiffré. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif plus ou moins atteignable. Ensuite, bataille 2 à l'Assemblée nationale. Et puis je rejoins ce que disait Georges de toute façon. Certains disent qu'il faut que le gouvernement recule. Si Emmanuel Macron dit « je ne ferai pas cette retraite », il rend les clés d'Élysée, il peut partir 4 ans. Puisque de toute façon, il a déjà reculé une fois, il ne peut pas le faire une deuxième fois. Et ça veut dire que systématiquement, quand il y aura un texte sur la table, on se dira « très bien, on descend dans la rue et on bloque tout ». Donc quoi qu'il en soit, même si c'est dans la douleur...
On a un peu l'impression que ce soit déjà le pli qui a été pris. On va descendre dans la rue, on va obtenir rien de cause.
Oui, mais c'est pour ça que là, il va falloir que le gouvernement tienne bon et se dise « dans la mesure du possible, il faut aller au bout de cette réforme. Cette fois, elle a déjà été annulée une fois.
J'entends ce que vous dites, mais il y a un terme qui n'a jamais été mis dans cette réforme, c'est la qualité de vie au travail. Pourquoi les gens ne veulent pas travailler plus? Parce que ça fait des années que cette qualité de vie se décroît. aller voir dans les hôpitaux. Ils n'en peuvent plus. En fait, la problématique, c'est qu'on se dans une vie de travail qui va de mieux en mieux, avec des échanges qui sont constructifs et tout. Mais ça n'existe plus. Maintenant, la décision budgétaire, je veux bien, dans les hôpitaux, est catastrophique. Donc, ils veulent sortir. En fait, il faut améliorer la qualité de travail si vous voulez qu'on travaille plus longtemps. Et ces qualités de travail ne font que décroître. Demandez aux gens qui travaillent. Voilà le problème.
Moi, je veux simplement rappeler, je l'ai déjà dit sur ce plateau, il manque un grand volet dans cette réforme, c'est une politique familiale.
Mais oui,
une politique de la natalité.
Mais c'est le plus important. À 1,7.
Pourquoi Ludovine de la Rochère est un petit peu avec nous sur ce plateau, comme j'en ai eu l'intuition dès le début. Bon, allez. On a hâte de parler des retraites. On passera au volet sécurité. On reviendra sur ce qui s'est passé dans les rues de Strasbourg hier. Un homme armé d'un couteau qui a voulu s'en prendre aux passants. On remercie Mélodie. Oh, bah, décidément, Élodie Huchard. Bon, je ne suis pas réveillée. Un petit café et on continue. À tout de suite. Il est bientôt 14h30, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité. Avant que l'on reprenne nos débats, on passe la parole à Clémence Barbier.
Les géants de la grande distribution appellent les députés à la responsabilité à la veille de l'examen d'une proposition de loi qu'ils accusent de favoriser l'inflation. Le texte porté par un député de la majorité vise notamment à rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et grandes surfaces qui achètent leurs produits à des prix fixés à l'issue de négociations tendues. Une Britannique de 45 ans est décédée hier dans une avalanche dans le massif du Mont Blanc. La victime randonnait avec son conjoint et un guide de haute montagne lorsque s'est déclenchée une avalanche qui a enseveli la femme sous une plaque, selon la gendarmerie. L'état d'urgence décrété à Lima, la capitale péruvienne, et dans d'autres régions en raison des manifestations contre la présidente Dina Boluarte. Cette mesure entre en vigueur pour 30 jours. Ces protestations ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre dernier du président socialiste Pedro Castillo.
Gérald Darmanin a salué le courage du policier qui, alors qu'il n'était pas en service, a permis d'interpeller un homme dangereux hier à Strasbourg. Regardez le tweet du ministre de l'Intérieur. Merci au policier courageux qui, en dehors de son service, a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg. Grâce à son intervention, aucune victime n'est à déplorer. On va revenir sur les faits avec vous, Amaury Bucaud. Bonjour, vous êtes journaliste au service police-justice de la rédaction. C'est donc armé d'un couteau hier qu'un homme a tenté d'agresser des passants en pleine rue.
Exactement, ça s'est passé vers 17h30 dans un quartier plutôt résidentiel de Strasbourg. Il y a eu trois victimes dans cette affaire. La première victime est un homme qui voulait regagner sa voiture qui était stationnée dans la rue. Et puis c'est à ce moment-là que l'agresseur présumé s'est jeté sur lui et a tenté de lui porter un coup de couteau dans le dos. L'homme a réussi à rentrer dans sa voiture, la victime, et a regagné, enfin rentré chez lui. Et c'est alors qu'il a appelé la police. Alors la deuxième victime, ça s'est passé 200 mètres plus loin. C'est une mère de famille qui était avec ses deux enfants dans une sorte de gros vélo cargo. Ses enfants étaient devant. Et l'homme a tenté de lui voler son vélo et de lui porter aussi plusieurs coups de couteau. Dans l'altercation, le vélo est tombé, les enfants avec. La femme, heureusement, et les enfants n'ont pas été blessés. Ils ont même d'ailleurs refusé d'être examinés par les pompiers. Et puis la troisième victime, en fait, c'est un policier hors service qui est intervenu pour mettre fin à l'incident. Et il a poursuivi l'homme et l'homme s'est retourné. Et il y a eu une altercation entre eux. Ce policier hors service, il est blessé. Il s'est vu attribuer 45 jours d'interruption de travail d'ITT, comme on dit. Mm-hmm. Et il a eu l'épaule démise et puis la main coupée. Il a une grosse coupure à la main. Le principal suspect a finalement été interpellé par une patrouille de police. Et pendant son transport au commissariat, il a tenu des propos en arabe. Il aurait récité des prières, hein, c'est ce que disent les policiers. Il aurait aussi dit plusieurs fois « Allah Akbar ». Et puis, il a également déclaré au commissariat, cette fois-ci en français, « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Alors, ces propos, ils ont été enregistrés par les caméras des policiers. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. C'est ce que nous confiait une source policière. Cette enquête, elle a été confiée à la police judiciaire. Pour l'heure, le parquet que nous avons interrogé ne souhaite pas communiquer. Il y a encore donc beaucoup de questions en suspens. Hein. Le profil de l'agresseur, on ne le connaît pas tout à fait, on a seulement son nom. Est-ce qu'il y a des motivations terroristes? Ça, c'est les enquêteurs qui vont devoir le déterminer. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes avant celles que l'on connaît actuellement?
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si on s'arrête sur ce nouveau fait divers, c'est aussi, Jean-Michel Fauvert, parce qu'une nouvelle fois, l'intervention qui permet sans doute d'éviter un carnage vient d'un policier hors service. On le rappelle, comme à la gare du Nord, il y a quelques jours. Est-ce que ça vous interpelle autant que nous ?
Oui, bien sûr. J'allais d'ailleurs le souligner, mais ça a été souligné avant moi. On a de plus en plus d'interventions de policiers, de gendarmes, de policiers municipaux aussi, qui sont pas à l'intérieur de leurs heures de service, mais qui n'hésitent pas à intervenir. Et d'ailleurs, je signale que depuis 2015, les policiers, depuis les attentats, donc les policiers et gendarmes ont la possibilité d'avoir sur eux leur arme à certaines conditions, évidemment. Et depuis tout à fait récemment, ils peuvent prendre les transports en commun gratuitement, à condition de se signaler au chef de bord. C'est ce qui est arrivé à la gare du Nord il y a quelques jours. On peut donc ainsi intervenir. En fait, en réalité, on a tout un tas de forces de l'ordre qui, hors service, peuvent intervenir. Et là, il faut saluer le courage de ce policier-là qui, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle si vous avez l'information, pour le coup n'était pas armé d'une arme à feu et est intervenu à main nue et a fait cesser donc cette. Après, il a été effectivement, il y a eu une interpellation ultérieurement avec les autres policiers, mais c'est grâce au courage de ce policier-là et aux techniques de travail qu'il a appris.
Bien sûr, imagine que sa formation, son expérience,
qu'il a pu intervenir et voilà encore une fois un bel exemple d'abnégation des forces de l'ordre qu'il faut toujours saluer à chaque fois qu'on peut.
Alors, précision d'abord sur l'arme. Alors, il était non armé, ce policier à Strasbourg.
C'est la question, en tous les cas, qu'on s'est posée. On a interrogé une source policière qui nous a dit qu'elle n'avait pas encore l'information. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que dans les rapports de police, il n'y a pas de mention de sortie d'arme. Donc, l'arme de service n'est pas mentionnée. Et autre chose à savoir, c'est que ce policier hors service, il a poursuivi l'agresseur présumé sur plusieurs mètres avant de le rattraper. Et c'est en le rattrapant et en l'interpellant qu'il aurait découvert qu'il avait un couteau sur lui. Donc, en fait, il n'était peut-être pas au courant qu'il avait son arme. Et donc, dans tous les cas, c'est peut-être aussi pour cette raison que même s'il était armé, il n'aurait pas forcément sorti son arme tout de suite.
Oui, juste un petit mot, Jean-Michel, vous avez totalement raison. Et moi, je me suis en train de me poser une question, parce que vous savez qu'on a des polices municipales et le maire est chef de la police municipale. Ouais. Je suis en train de me demander si mes policiers municipales qui sont armés ne devraient pas l'être aussi quand elles ne sont pas en service. Et ça, c'est une question à se poser pour les policiers municipaux qui peuvent agir aussi.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les polices municipales, elles n'ont pas le droit d'être armées quand elles ne sont pas en service. Et d'ailleurs, elles n'ont pas le droit non plus au transport de l'arme jusque chez elles, etc. Ça doit être déposé dans un...
Oui, tout à fait.
Dans un bâtiment. Qui est une évolution dans ce domaine-là. Moi, on en avait parlé sur la loi sécurité globale et finalement, l'ensemble des collègues députés, je dis bien l'ensemble, ne s'était pas prononcé là-dessus favorablement. Moi, je pense qu'à un certain moment, les polices municipales, compte tenu de leur entraînement régulier au tir, etc., seraient tout à fait habilitées.
Surtout que la société change, elle devient. Bien évidemment. Vous l'avez vu tous les jours, il y a les coups de couteau, et il faut qu'ils interviennent. S'ils peuvent avoir une arme la journée, je pense que.
Ils peuvent l'avoir. Rappelons que c'est eux qui sont intervenus sur Nice.
Oui, tout à fait.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement une petite réflexion. Lorsque des policiers ont cette réaction héroïque, parce que c'est au risque de leur vie qu'ils interviennent, ils ne sont pas du tout... ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est que quand il y a, et nécessairement il y a une enquête, on les place en garde à vue. Ça, il y a quelque chose qui me heurte profondément. Voilà quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a sauvé des vies, et qu'on l'emmène dans un poste de police...
De nombreux Français, en général, s'en étonnent, les policiers et gendarmes nous rappellent que c'est la procédure.
À la gare du Nord, ça a été le cas, je crois.
Oui, bien sûr.
Oui, ça a été le cas.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une enquête administrative de l'IGPN immédiatement, dès qu'il y a un coup de
feu. Non, mais qu'il y ait une enquête, c'est normal. Et de l'IGPN et de la...
Et quand il y a usage de l'arme, effectivement, c'est ce qu'a Maurice.
Qu'on applique à ces héros du quotidien, si je puis dire, les mêmes règles que pour les bandits. C'est-à-dire, on vous place en garde à vue. Vous savez, en garde à vue, vous ne pouvez plus sortir. Ouais.
Donc Jean-Michel Fauré, vous êtes d'accord? Ça vous choque aussi?
Oui, alors bien sûr, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Georges. Je veux juste vous donner une petite précision. C'est que le placement en garde à vue, et Georges sera d'accord avec moi, c'est du rôle de l'officier de police judiciaire. Ce n'est pas le procureur qui ordonne le placement de garde à vue.
Il contrôle, mais il ne le décide pas.
Dans le cadre de l'enquête.
La garde à vue, ça peut être le procureur. Oui. Et donc, c'est les policiers qui eux-mêmes, les policiers de l'IGPN, placent leurs collègues en garde à vue. Ça m'a toujours choqué. À un certain moment, il faut voir la nature des affaires. Et effectivement, dans ces cas-là, arrêtons
je le dis solennellement aux collègues policiers de l'IGPN, arrêtez de mettre vos collègues en garde à vue. Arrêtez.
On dit aussi que c'est pour se prémunir d'éventuels abus qui pourraient être tout aussi choquants que cette affirmation. Fait savoir l'air, j'en ai conscience. Peut-être sur
libre,
oui, ça peut.
C'est vrai, ça lèverait la suspicion. Sur le mode opératoire, parce que ce que disait Ludovic Toro, c'est vrai, il y a de plus en plus d'attaques au couteau.
Ah bah ça va vite, parce que c'est pas... Et si ça va vite à dissimuler, à prendre, à acheter en 5 minutes.
C'est vérifié ça dans les...
Oui, il y en a des attaques au couteau, il y en a toujours eu, avec des armes blanches, il y en a toujours eu. Et c'est quelque chose de facilement, on arrive à se le procurer facilement, et il y en a de plus en plus en fait. Hein. En réalité, sur Strasbourg d'ailleurs, tout à l'heure je faisais des recherches, il y a eu plein de tentatives d'attentat et de tentatives d'homicide avec... pas mal d'utilisation des couteaux. On voit beaucoup.
On se souvient tous de l'attentat à la préfecture de police de Paris.
Ouais.
Au couteau.
Ah, évidemment.
Il fait quand même 4 morts.
Difficile à surveiller.
Gare de Lyon, gare du Nord, là, récemment.
Ouais. Et gare du Nord, bien sûr.
Merci beaucoup, Amaury Bucco, d'avoir participé à nos débats. L'insécurité, certains la vivent également au quotidien, squat ou incendie à répétition. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, nos journalistes, se sont rendus dans une cité de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, près de Paris. Les locataires leur ont raconté leur quotidien devenu invivable. Des groupes de jeunes ont pris possession des parties communes où ils fument et trafiquent. Les patrouilles renforcées de la police nationale n'ont pas permis d'améliorer la situation.
Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles auraient pu être très graves. Si une des voisines n'était pas réveillée, on aurait pu mourir asphyxiée. Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de montrer, si c'est des représailles, mais c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande est-ce qu'ils vont être là. Ils fument de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre.
Depuis un an, dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a su prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
Le matin, je suis arrivé ici la semaine dernière. Toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, quand ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant, cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne referme plus. Même de l'extérieur, elle ne ferme plus.
Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
Voilà, on se souvient du drame survenu à Vau-en-Velin, hein, il y a un mois. 10 morts, dont 5 enfants, dans un incendie survenu dans un immeuble qui lui aussi était occupé dans les mêmes conditions, Ludovic Toro.
Vous avez 500 tonnes de cannabis à diffuser dans tout le pays. Vous croyez qu'on va les diffuser où et comment? C'est ça la réponse. On a un PIB qui est à 3,5 milliards en vente de drogue en France, reconnu. De toute façon, le problème, il est là. Évidemment, ils vont aller les vendre là où ils peuvent aller. Ils vont aller là, pas loin où ils habitent. Ils ont une sectorisation. On le sait très bien. Et cette société a été rigide. Donc, ne cherchez pas. Je veux dire. On les enlevera là, ils iront là. Parce que la problématique que n'a pas compris le gouvernement, c'est qu'évidemment, il y a les vendeurs, mais il y a les consommateurs. Tant que la demande sera là, l'offre sera là. Et comme il y a un Français sur deux qui a déjà consommé du cannabis, et là on est quatre, il y en a deux qui ont déjà goûté, d'accord? Mais excusez-moi de vous dire la vérité, c'est comme ça, au moins une fois dans leur vie. Et qu'il y a 800 000 consommateurs quotidiens de cannabis. Ouvrez les yeux. Il faut bien qu'ils aillent chercher ces tonnes et ces tonnes. Ils iront là les chercher. Voilà, c'est tout.
Mais vous voulez dire quoi, là, monsieur le maire, que vous les excusez finalement?
Non, pas du tout.
Bah, dites-le.
Alors je vais vous dire alors ce que je pense.
Je m'interroge là.
Alors je m'interroge. Ouais. C'est qu'au lieu de faire une répression, il faut faire de la santé publique. Pourquoi ces gens fument? Le problème, c'est qu'on a toujours voulu dire, allez, les pays qui est plus répressif, ça marche absolument pas, d'accord? Arrêtons, puisqu'on est un des.
On n'est pas les plus répressifs, non.
On est un des moins efficaces.
Comment on n'en serait pas là, hein.
On n'est pas efficace du tout, puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs.
Voilà.
Donc à un moment, il faut essayer de changer un peu la mentalité des choses.
Donc on pénalise le consommateur, on remonte au pays d'origine de la drogue.
Je vais vous dire une chose. Allez voir dans les collèges, dans les lycées et même maintenant dans les écoles, qui c'est qui va parler du cannabis? Mais personne.
Non, mais là,
Là, si, la police, là, si,
non,
si,
oui,
si,
mais c'est justement, c'est pas la police qui devrait y aller. Ah. Ce sont les médecins qui devraient y aller. Ce sont les infirmiers qui devraient y aller. Ce sont le personnel de soignants qui expliquerait qu'aujourd'hui, dans le cannabis, excusez-moi de vous dire ça, le THC qui était à 10 ou 20%, il passe à 60. Oui. Donc les enfants qui fument aujourd'hui dans les collèges, ils sont addicts tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre 100% le THC dans le non, cannabis?
Là, ça, c'est le problème plus général de la toxicomanie dans notre pays, pour en débattre longtemps. Là.
Que Ludovic Thoreau place à l'origine des problèmes vécus par ses habitants qu'on a vu dans le reportage.
Problème, mais là, on a une question très précise qui se pose. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui ne peuvent plus vivre tranquillement chez eux. Alors, que faire? C'est la question. Je pense que là, très franchement, il y a une responsabilité des bailleurs sociaux. En liaison avec les maires, en liaison avec les parquets. Si, bah, vous savez très
bien. Faut la police.
À Nice, ça s'est fait, et dans d'autres communes. Le bailleur. Ça se fait à partir du moment où vous avez une famille qui trouble, le voisinage qui trouble, la tranquillité dans une cité, dans un immeuble, il faut la déloger. Point barre. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'elle se débrouille.
Ah, mais oui.
Eh oui.
Mais attendez. Oui. Mais de toute façon.
Ou alors, vous, écoutez-moi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des avertissements.
Mais les avertissements, tout ça. OK, on va déplacer la famille. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un autre vendeur qui va venir? Mais vous plaisantez.
Mais écoutez, il faut avoir de la persistance quand on veut rétablir l'ordre public dans ce pays.
Il faut comprendre le problème.
Il faut se donner les moyens de le faire.
Voilà. Il faut comprendre le problème qu'aujourd'hui, c'est pas le vendeur qui pose problème. C'est la personne qui le demande. Et tant qu'on n'aura pas fait comprendre à ces gens que le cannabis, c'est pas bon. Pour la santé, c'est pas bon.
Au sauf que là, dans le reportage,
jours, vous avez plus de mémoire.
Pas le problème.
Dans le reportage,
si
on voit aussi que les patrouilles.
Le problème, c'est que pour le tabac. C'est-à-dire qu'on va dire à personne qu'ils ont un cancer
si
de la langue.
Si vous légalisez le cannabis, vous aurez.
J'ai pas dit qu'il fallait légaliser. Vous m'avez pas compris.
Plus toxique.
Je n'ai jamais dit qu'il fallait légaliser. Je veux dire qu'un jour, plutôt que se voiler la face, genre les trois singes qui voient rien et tout ça, il faut pas déplacer le problème. Il faut enfin se mettre autour d'une table et on va dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Ça se passe déjà, ça, Ludovic Thoreau.
Non, jamais.
On imagine que des maires,
jamais.
On imagine que des.
Non, y a, au niveau, non, non,
effectifs,
au niveau politique, aucun parti
judiciaire se pose la question.
La
ou alors, c'est très grave, alors, si on ne se pose pas la question.
L'exemple de Nice, hein, j'ai regardé ça récemment. Il y a donc maintenant des réunions entre les bailleurs, le maire et le procureur de la République. Mais il y a des familles qui ont été expulsées.
Oui, vous me parlez de Nice, moi, je vous parle de la Seine-Saint-Denis. C'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes moyens.
Non, alors attendez, on entendait dans le reportage que les patrouilles de police, là, dans le cas de cette cité à Champigny-sur-Marne, ont été multipliées et que malgré ça, rien ne change et qu'on entend que des habitants, ceux qui le peuvent en tout cas, cherchent à déménager. Ça veut dire, Jean-Michel Fauvert, que c'est la fuite finalement pour échapper à ce qui est déjà un abandon de la part des pouvoirs publics.
Ça veut dire que, encore une fois, la sécurité ne doit être globale ou elle ne le sera pas. Et elle ne l'est pas là pour l'instant.
Pourquoi c'est si difficile de faire cette sécurité globale que tout le monde appelle de ses voeux?
Ça veut dire que la police nationale doit travailler avec les polices municipales qui doivent elles-mêmes travailler avec les services privés de sécurité. Et là, pour le coup, avec les bailleurs sociaux qui peuvent faire appel à des services privés de sécurité pour être présents. La police nationale va passer par ronde et patrouille. Elle va être appelée sur un homicide, sur autre chose. Elle va partir, elle va lâcher le terrain. Le terrain ne peut être occupé que par soit les polices municipales, soit des services privés de sécurité. Et à un certain moment, il faut se donner les moyens de récupérer le terrain. Une fois qu'on a dit ça, et là je rejoins toute la discussion qu'il y a eu, parce que effectivement, le problème de la lutte contre les stupes, c'est la mère des batailles, et ça devrait devenir la mère des batailles. Tout parti politique confondu, moi je rêve d'un consensus là-dessus, et il faut donc engager cette lutte-là. Il faut l'engager à la fois sur la répression, à la fois sur la prévention, mais il faut aussi, à un certain moment, se tourner vers l'avenir dans cette lutte-là. Il faut véritablement travailler sur les dealers, il faut travailler sur les consommateurs, et pour les consommateurs, je rappelle qu'il y a une amende pénale qui a été...
Mais pour mettre cette amende, il faut patrouiller et venir la donner, cette amende. Si on a pu assez de policiers, on prend les pieds dans le tapis.
Aux policiers
à Jean-Michel.
Et donc, c'est un combat global là-dessus.
Mais il est lancé ou il faut y réfléchir pour le mettre en place dans quelques années?
Il ne faut pas le perdre, ce combat-là. Donc bien sûr qu'il est lancé, il est lancé actuellement, mais il faut l'amplifier et faire en sorte que ça soit démesuré. Et ensuite... Et ensuite, moi, je vais peut-être...
On part de loin, hein, s'il faut que ce soit démesuré, alors qu'on manque de moyens, là...
Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis pour l'ouverture d'un débat sur ce qui se passe à l'extérieur, en particulier au Canada et dans les pays qui ont légalisé, pour savoir si ça fonctionne.
Non.
En particulier sur les réseaux de voies publiques. Faire disparaître ces réseaux de voies publiques. Donc il faut savoir si ça fonctionne. Et je vous signale que l'année prochaine, l'Allemagne veut légaliser l'ensemble des stupes. Hein. L'Allemagne.
L'ensemble des stupes.
Toute l'Allemagne. Le cannabis.
Munichoise.
Alors Georges Fenech, il voulait contrer Jean-Michel Fauvergue.
Je dis à Jean-Michel que quand on veut, on peut. Il le sait très bien. Et je veux pour preuve les derniers chiffres exceptionnels que j'ai lus ce matin dans le JDD qu'a rendu public Laurent Nunez sur Paris.
On va y venir juste après
Laurent
la pub.
Il dit les crackers, le crack.
Ils sont partis.
Oui, c'est alors.
Une option.
Il dit ils ne sont plus dans Paris.
Prison.
Pardon,
hein,
prison, quelques centaines de mètres plus loin, c'est
expulsion.
Une autre ville, c'est plus Paris.
Ils ont été. Et vous avez vu les résultats Formidable. C'est une baisse, une baisse.
Il y en a beaucoup qui ont été expulsés au Sénégal.
Oui.
Les craqueurs.
Vous voyez, quand on veut.
Oui, bien sûr.
Sénégal.
Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut du courage Canada, politique, mais un
moi,
peu plus de moyens aussi.
À Paris. Attends, et puis, je vois qu'il y a un nouveau préfet qui a pris ça à bras le corps et je vois que ça marche.
Oui.
Donc, besoin d'ouvrir des tables rondes. Hein.
Non, mais il faut quand même ouvrir en santé publique. On a besoin de parler en santé, c'est important qu'on ne l'a pas fait pour le Covid. Mais ce que je veux dire, en effet, la police, on pourrait faire une police des bailleurs sociaux, mais beaucoup plus forte. Dans ces cas-là, ce sera encore une délégation du régalien.
C'est au maire de faire ça,
ah non,
monsieur le maire Taureau.
Non, plus que ça, j'ai du mal à me payer mes trois policiers municipaux si je dois payer maintenant pour les bailleurs. C'est
qui lutte contre les bailleurs sociaux alors?
Ça sera aux bailleurs sociaux qui louent aux gens de mettre en place une certaine sécurité.
Oui.
Et c'est à eux, mais est-ce qu'ils ont les moyens financiers de le faire? Je sais pas.
Dans les moyens légaux, depuis la loi sécurité globale, ils ont les moyens légaux.
Financiers, je parle.
Financiers.
Bah, légaux, ils l'ont. On peut changer une porte, mais de mettre en permanence des gardiens devant, ça coûte un peu plus cher.
Il y a de la vidéo maintenant, beaucoup.
Oui, il y a de la vidéo. Oh,
attends, plutôt que de mettre des portes blindées
mais il est
aux dealers qui habitent chez eux,
oui, ils ont les codes.
Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Au lieu d'investir là-dedans, ils peuvent investir.
Et puis, à un moment, est-ce qu'on pourrait discuter des 500 tonnes d'où ils viennent avec nos copains du Maroc?
Du Maroc, mais pas.
On les voit, il y a un port, on voit tout. À un moment, ils sont en train de faire au Maroc en ce moment une grande progression sur le CBD. Vous savez qu'il va être autorisé en France, mais on sait très bien qu'à côté, ça vient de là-bas. Est-ce qu'on peut pas parler de ça aussi? Franchement.
Bah, les relations franco-marocaines sont
c'est la santé publique de nos enfants, excusez-moi de vous dire ça. C'est qu'à mon avis, c'est le premier commerce ou le deuxième commerce, la France et le Maroc, mais quelque part, on a tous nos pauvres enfants qui sont dépendants avec le cannabis. C'est une catastrophe. C'est un problème de santé publique. Je vous dis qu'il faut le mettre aussi de ce côté-là. Je comprends le côté judiciaire.
C'est le principe de... C'est la philosophie de la loi de 1970.
Mais
vous avez l'aspect sanitaire avec injonction thérapeutique.
Non, je parle de l'aspect sanitaire, c'est de la prévention pour pas que nos enfants arrivés au lycée soient 1 sur 2 à avoir pris du cannabis.
Surtout un consensus politique qui dise tout parti politique.
Et puis on en parle.
Ce que dit Darmanin, c'est de la merde, on va lutter contre. Voilà.
Il va y avoir consensus politique, là. Ça va être facile à obtenir. Non, mais quand on vous entend, alors d'accord, on cherche les origines ailleurs, tout ça, mais on se dit que le temps qu'on met en place tout ça pour résoudre le problème de la consommation, ça n'arrivera jamais. Et entre-temps, il y a des habitants qui subissent l'enfer.
Tu m'as dit tout à l'heure, tu es pour la légalisation. Absolument pas. Je veux qu'on parle. Il y a une population aujourd'hui à risque qui sont les jeunes, les collégiens, les lycéens. Après, s'il y a 22 ans, quand le cerveau...
Ça, c'est de la santé publique.
Oui, mais quand le cerveau est fait à 22 ans, tu peux boire chez toi du whisky, ça pose pas de problème, on va pas t'empêcher. Mais les enfants, c'est là que ça commence. C'est très rare la consommation qui commence à 22, 23, 5 ans.
J'ai regardé ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont dépénalisé, légalisé dans 15 États.
Oui.
Aux USA, c'est un désastre.
Eh ben non, c'est pas
c'est un désastre.
Alors je vais répondre.
Il y a beaucoup plus.
Je vais répondre.
Beaucoup plus de consommation.
Non, oui, mais quand tu
consommes. Beaucoup plus de produits nouveaux qui sont apparus.
Oui, je vais répondre. Quand tu consommes un joint où tu as 10% de THC qui est légalisé par l'État, et quand on consomme un à 70% de THC, on peut dire qu'au niveau santé, c'est une catastrophe.
Parce qu'il est génétiquement modifié.
Ben oui.
C'est parce qu'il est génétiquement modifié par l'État.
Ben évidemment. Ils vont les rendre de plus en plus dépendants, ils vont foutre des saloperies, des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Et on sait qu'il y a un nombre de consommateurs et qu'ils ne diminuent pas.
La vente dans les bureaux de tabac de paquets de cannabis, 100 mois, s'il te plaît.
Mais c'est pas... Allez, voilà.
Ça, c'est un autre débat.
C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on parle ensemble.
Non, je ne m'assois pas autour de la table.
Mais jamais on vendra dans un
Surtout, restez assis maintenant. On poursuit nos débats dans un instant. On reviendra justement sur ces chiffres donnés par le préfet de police de Paris. Est-ce que c'est un autosatisfait? Est-ce qu'il faut prendre ça avec mesure? Et surtout, quelles conséquences pour la ville de Paris? Vous voyez, il y a pas mal de caractéristiques intéressantes à étudier, à discuter. On reprend nos discussions animées en ce dimanche. Dans un instant, on fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
Soyons 1 million à déferler dans la rue. C'est un appel de Fabien Roussel qui exhorte les Français à se mobiliser massivement ce jeudi contre la réforme des retraites. Dans le journal du dimanche, le patron du Parti communiste propose aussi de soumettre cette réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. La réponse des pouvoirs publics face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, dénonce la défenseure des droits. Claire Hédon s'apprête à publier lundi un rapport de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid, alors que les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. 6 départements du Grand Est sont en alerte rouge face au pollen. La raison, des températures douces qui ont favorisé la floraison des arbres et notamment ceux des noisetiers, selon le réseau national de surveillance aérobiologique. Le reste de la France métropolitaine est en risque d'allergie de niveau moyen. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Les Californiens se préparent à essuyer ce dimanche de nouvelles fortes pluies.
Voilà, on va revenir à présent sur ce thème de l'insécurité à Paris. La délinquance serait en baisse sur les 6 derniers mois. On en a parlé il y a quelques minutes et c'est ce qu'affirme et ce dont se félicite Laurent Nunez, le préfet de police, qui précise que le niveau de délinquance structurellement élevé en région parisienne ne permet pas de parler de situation globalement positive. Mais vous le voyez, la tendance est à la baisse. Les atteintes aux biens ont diminué de 5% sur Paris, de 2% sur l'agglomération dans son ensemble. Les vols avec violence, moins 25% sur Paris, moins 20% sur l'agglomération. Georges Fenech, vous nous disiez formidable, on a un nouveau préfet de police depuis 6 mois et ça y est, on voit que ça marche. On se doute aussi que le préfet communique sur les chiffres qui rendent favorable son action à la tête de Paris.
Non, mais on met en doute la...
En tout cas, je veux dire, prenons les chiffres et puis...
Il y a une volonté.
Très bien.
Volonté. Il s'inscrit dans aussi une volonté ministérielle de Darmanin. On connaît les mérites, les qualités, les capacités de Laurent Nunez. Il est en train d'enregistrer des résultats.
Comment a-t-il fait pour réussir là où le préfet l'Allemand, qui n'était pourtant pas connu pour être un laxiste, aurait échoué?
Mais parce qu'il a tout compris.
Méthode différente.
Il a tout compris. Il faut de la présence policière énorme sur le terrain, sur certains endroits très criminogènes. Et puis, après les interpellations, il faut être radical. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il le dit dans cet article, avec ses chiffres, il le dit bien pour les consommateurs et le crack, notamment les trafiquants, c'est ou la casse-prison ou l'expulsion. Il n'y a pas 36 solutions. À partir du moment où vous avez une volonté politique clairement affichée, vous donnez les moyens d'y aller. C'est tout. Et ces résultats, moi, je trouve, sont exceptionnels parce qu'un quart de la délinquance violente à Paris en 6 mois, ça veut dire qu'on peut aller encore faire beaucoup mieux.
Michel Fauvert, c'est quoi la méthode Nunez?
Alors, Laurent Nunez, c'est un vrai spécialiste de la sécurité. C'est-à-dire que c'est un préfet qui a consacré une bonne partie de sa vie à la sécurité. Il a été préfet de police à Marseille. Il a été directeur de cabinet du préfet de police à Paris. Il a été, vous en souvenez, secrétaire d'État. Et là, il est préfet de police. Il connaît la sécurité. Il sait s'impliquer. Il connaît les policiers et les gendarmes. Et il n'est pas clivant. Vous posiez une question tout à l'heure, pourquoi réussit-il là où d'autres ont échoué? Parce que Laurent Nunez, que je connais un peu, n'est pas clivant, c'est quelqu'un qui recherche à la fois le consensus et l'efficacité. Donc il a mis en place sans doute une nouvelle méthode de travail avec ses fonctionnaires de police, mais aussi avec l'approche, avec le parquet et les magistrats, et je parle sous le contrôle de Georges, présent à côté de moi. Donc, il enregistre des premiers résultats qui sont intéressants, mais comme il le dit lui-même, attention, le niveau de criminalité sur Paris est important, attendons de voir un peu, mais là, les premiers résultats sont encourageants. Et puis, il y a une autre chose à prendre en compte, on en parlera un peu après.
Bon, on va y aller tout de suite.
C'est aussi que
la perspective des Jeux Olympiques.
C'est la perspective surtout, à un certain moment, de voir fleurir une police municipale à Paris qu'on a votée et qui n'est toujours pas présente.
Ah, d'accord.
Donc ça serait intéressant que la maire de Paris s'y mette un peu, elle aussi.
Alors justement, Alors, Ludovic Toro, oui, après...
je l'ai connu aussi. Laurent Lunès, qui a été directeur de CAB alors, en préfecture de Seine-Saint-Denis. C'est vrai que c'est plutôt quelqu'un de sympa et qui discute. Aussi bien, d'ailleurs, avec les élus, mais c'est important. Il a ce pouvoir de discussion, il a une très bonne connaissance. Vous avez raison, il faut qu'il ait ses chiffres, hein, parce que les JO, ça approche. Et le rapport qui a été présenté très récemment par rapport à la Cour des comptes met le doigt sur le fait de la sécurité. Ils ont un doute sur la sécurité. Et donc, en effet, il a des résultats à avoir. Sinon, il est impossible qu'on ait des Jeux Olympiques et qu'ils se tiennent.
Alors justement, juste avant ça, on précise que les relations entre la mairie de Paris et la préfecture de police semblent s'être arrangées. Pour preuve, regardez cette phrase que nous avons extraite des vœux d'Anne Hidalgo mardi dernier. « Cher Laurent Nunez, dit-elle, lorsque la ville et l'État travaillent main dans la main, on arrive à de belles choses. » Est-ce que c'est ce qu'on leur souhaite, hein, justement, dans la perspective notamment des Jeux Olympiques qui débuteront le 26 juillet 2024. Il reste donc 559 jours pour être prêt, sauf que, ce que disait Ludovic Toro à l'instant, la Cour des comptes dit que, et Anne Hidalgo l'a confié déjà, la capitale ne sera peut-être pas tout à fait prête. On écoute les précisions de Kinson.
À 18 mois de l'échéance, la sécurité sera l'un des gros défis lors des Jeux Olympiques. Dans un rapport, la Cour des comptes pointe la sécurité et les transports comme les principaux risques opérationnels. Les magistrats pressent le comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats, notamment avec la sécurité privée. Selon les projections, au moins 30% des menaces qui seront décelées en 2024 ne sont toujours pas connues. Et à ce jour, il manquerait près de 20 000 agents pour sécuriser les Jeux. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture, la Seine sera parcourue par des centaines de bateaux. 600 000 spectateurs seront massés sur les quais. 13 millions de touristes seront attendus pour l'événement. Mais la carte des transports en commun n'a pas résisté au retard des chantiers. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée dans Le Parisien.
Les métros du Grand Paris ont été lancés avec retard. Ils ne seront pas tous prêts à temps.
Les Parisiens seront d'ailleurs appelés à se prononcer sur l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale le 2 avril prochain. Autre problème, Île-de-France Mobilité n'a pour l'instant trouvé aucun prestataire pour transporter les 200 000 personnes accréditées. On parle là des athlètes, des membres des fédérations, de la presse ou encore des organisateurs. Il s'agit là de créer un réseau de transport éphémère, à peu près aussi important que celui d'une ville comme Lyon.
Jean-Michel Fauvergue, vous avez dirigé le RAID. Voir le projet, hein, la foule sur la Seine, les quais, et entendre d'un autre côté un son de cloche qui dit on n'est pas prêt, j'imagine que ça vous fait peut-être trembler, même si un homme comme vous, sans doute, ne tremble pas.
On n'est pas prêt. On n'est pas prêt en ce moment, bien évidemment. En ce moment, on n'est pas prêt, c'est clair. Le projet, c'est un projet titanesque, en particulier l'ouverture de ces jeux-là, et c'est quelque chose qui demande à être sécurisé. Sur la sécurité, là aussi, il faudra coûte que coûte. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, coûte que coûte, de faire du global avec.
Mais vous êtes confiant parce que ça se fasse et qu'on soit prêt finalement dans la douleur, on va dire, la veille.
Je n'imagine pas qu'arriver les Jeux Olympiques, qu'on ne soit pas prêt, qu'il y ait quelques bugs par-ci par-là. Pourquoi pas, mais qu'on ne soit pas prêt, je ne l'imagine pas. Par contre, c'est en termes de sécurité privée. On a un vrai gros problème en termes de sécurité privée. Pour sécuriser l'Euro 2016, on avait 13 000 agents de sécurité privée. Là, il en faut grosso modo 25 000. Donc, quand on dit il en manque 20 000, à mon avis, il en manque pas 20 000, puisqu'il y en avait déjà 13 000 au départ. Il en faut 25 000. Et il faut arriver à trouver les profils. Donc, il y a des pistes qui se dessinent, en particulier, le ministère de l'Intérieur l'avait dit, en particulier, voire du côté des étudiants qui veulent bien aussi travailler. Ah oui, qui veulent bien travailler.
Pardon, mais un job étudiant, on n'est pas hôtesse d'accueil ou serveur comme on est chargé de la sécurité de touristes.
Attendez, en termes
de. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que ce n'est pas la même formation ni la même expérience.
Il y a tout un profil et tout un prisme de travail différent. Autre chose importante, on a la problématique que l'on a aussi, c'est qu'on a trop rapidement mis sur le côté l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc. Parce que en France, de manière tout à fait idéologique, à un certain moment, ça pose des problèmes un peu à tout le monde de manière tout à fait dogmatique. Je pense qu'il va falloir sur des B2B, c'est-à-dire du comparatif entre une personne et ses empreintes, il va falloir arriver à travailler là-dessus, il va falloir arriver à accélérer là-dessus, en particulier avec des entreprises françaises.
Ah oui, d'accord. Alors, Oui,
on a raison de parler des JO parce que là, on parle. En fait,
sachant qu'il y a la Coupe du Monde de rugby avant, oui, quand même, précisons-le, en septembre 2023.
C'est important pour lui, les JO. Oui. C'est bien sûr la réforme des retraites là, qui va se passer, mais il y a les JO. Oui. Donc c'est clair que la Cour des comptes qui vient de donner son rapport donne trois choses. En effet, la carence en service de l'ordre. 25 000, il va falloir les trouver, ou même 18 000 ou 17 000, il faut les trouver. C'est 6 km.
Sécurité privée.
Sur 6 km des bords de la Seine. Va falloir sécuriser tout ça. Ça va pas être facile. Deux, les transports. On est un peu à la bourre, sur le RER E, sur la ligne 14. Et dernière chose, les finances. On passe de 4 milliards à 4 milliards 4. Vous voyez bien, dans tous les JO, on perd de l'argent. Même quand vous avez vu à Londres, on a perdu de l'argent. C'est le contribuable qui va payer. Donc 4,4 milliards. Je dis pas qu'il faut remettre en question les Jeux Olympiques. Je dis tout simplement.
On peut pas décaler les Jeux Olympiques, lui,
de pas, ouais, même si, avec la gloire en rêve, on pourra pas les décaler.
Mais 4,4 milliards. Sur investissement, après.
Oui, mais il essaie de mettre la pression pour récupérer de l'argent qu'ils n'ont pas encore. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises ont moins en moins d'argent. Il faut voir ça aussi avec la crise qu'il y a aujourd'hui. Et là, il va falloir récupérer en un an un milliard ou deux.
Georges Fenech.
Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance au secteur privé. Ils sont organisés, ils sont prêts, ils sont formés. Ils n'attendent que ça, en réalité.
Oui, mais attention, ils viennent combler un manque du secteur public. Hein. Non, c'est aussi ça que ça vient effacer si on n'a pas.
Vous avez des complémentarités dans
sécurité globale.
D'accord.
Sécurité.
D'accord.
Ce que peut faire un agent privé, ce que peut faire un agent de police municipale ou un agent de police nationale.
On parle de crise des vocations pour la fonction publique. Sont... Est-ce qu'il n'y a pas de crise de vocation pour recruter dans le secteur privé de la sécurité?
Parce que les salaires sont très, très faibles. Et je rejoins aussi ce que dit Jean-Michel Fouac sur la surveillance, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale. J'ai eu l'occasion encore récemment d'en discuter avec la CNIL. La CNIL, évidemment, elle vous dira atteinte à la liberté individuelle, mais la CNIL dit aussi, semble-t-il, s'il y a une commande politique, évidemment, nous, on l'acceptera. Donc il faut qu'on y aille le plus vite possible. Les autres grands pays l'ont fait, tout en préservant, évidemment, la vie privée. Il faut aller vers cette technologie dont on a la connaissance technique en France. On a des entreprises qui sont formidables. Il faut effectivement que cet outil technologique vienne en renfort de la surveillance humaine dont on ne se privera jamais. Mais on a la capacité de le faire. Moi, je ne suis pas foncièrement inquiet qu'on ne soit pas prêt ou pas prêt. Je veux dire, on a eu quand même le précédent du Stade de France. Tout le monde s'en souvient, on n'a pas envie que ça recommence.
Alors il y a la sécurité, mais il y a les transports. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo demande d'ailleurs un réexamen ou le report de l'ouverture à la concurrence du réseau de bus qui est prévu pour début 2025. La maire de Paris a peur que ça provoque un peu des remous si on fait ça avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on sent qu'on peut être confiant et optimiste, mais que ça peut coincer un peu.
Oui, dans ce domaine-là, je n'ai pas tous les renseignements. Sur ce réseau de bus, mais d'une manière générale, c'est tout le chantier du Grand Paris, en dehors des JO, qui a pris du retard. Des retards d'abord dans le financement, des retards dans les travaux, etc., etc. Et effectivement, de ce point de vue-là, à mon avis, elle n'a pas tort. Je pense qu'on sera... Le Grand Paris ne sera pas terminé pour ces JO. Mais pour autant, il y aura des solutions alternatives sur le transport des athlètes, sur le transport d'un certain nombre d'officiels, sur le transport aussi des touristes qui seront là. On parle de 13 millions, c'est entre 13 millions et 28 millions quand même. Oui, donc c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Mais alors avec un public qui en général est un public plutôt calme. On parlait aussi de la Coupe du Monde de rugby.
Ouais.
La Coupe du Monde de rugby, le public du rugby, c'est un public de gentlemen.
Donc tout va bien se passer. Vous n'aurez plus de travail à ce moment-là. Très bien. Juste un mot sur les trottinettes qu'on a vues en image, puisque la maire de Paris va inviter les Parisiens à se prononcer sur la prolongation ou non des contrats de ces opérateurs de trottinettes. Rendez-vous aux urnes le 2 avril pour décider avec les Parisiens de cette... prolongation pas. Intéressant.
Si je suis pas...
On a accusé par le passé Anne Hidalgo d'être un petit peu trop autoritaire. Finalement, elle va consulter
les
Parisiens.
Oui, mais elle connaît la réponse.
Ah bon ?
Attendez, les Parisiens qui sont sur les trottoirs, ils ne vont pas dire « Oui, on continue les trottinettes. » Ils se font shooter tous les jours. Ouais, excusez-moi, voilà. La problématique, c'est pour ceux qui prennent les trottinettes pour aller à leur travail. Comment ils vont y aller maintenant ? Ils prendront leur trottinette. Voilà, c'est ça. Ils prendront leur trottinette. Mais il y aura toujours leurs trottinettes qui seront là, vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura encore des accidents. On va quand même shooter des gens qui vont venir aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une vision à court terme pour se dédouaner d'une réalité qu'on ne veut pas affronter. Qu'est-ce qu'on fait des trottinettes ?
Bon, Merci d'avoir participé à nos débats. À suivre Lionel Rousseau et ses invités pour 90 minutes info. Lionel Rousseau qui reviendra notamment sur ce qu'on a appris aussi dans cette interview avec Anne Hidalgo. Elle ne veut pas vendre le Parc des Princes au PSG qui voulait l'acquérir. Vaste débat aussi, on aurait pu en parler.
C'est pas la première fois. Hein.
Enfin, c'est pas la première fois. Eh ben, restez avec Lionel Rousseau dans un instant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.